Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Et bienvenue donc pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes donc en direct des studios de Micro Rebelle à Liévin, comme chaque vendredi de 18h à 19h. Alors pour celles et ceux de nos auditrices et auditeurs qui ne nous ont pas écoutés la semaine dernière, on vous renouvelle tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019, hein, des vœux de santé bien sûr, hein, c'est un grand classique, mais aussi des vœux de lutte et de résistance, hein, en ces temps qui sont peut-être un petit peu difficiles pour chacune et chacun d'entre nous. Nos studios sont donc au 13 avenue Victor Hugo à Liévin, à quelques dizaines de mètres de la place Gambetta. N'hésitez donc pas à venir nous faire un petit coucou, à nous proposer des émissions, des actualités, des reportages. Notre antenne est ouverte, hein, vous pouvez l'utiliser amplement, sans aucun souci. Et puis ce sera l'occasion pour vous de rencontrer les animatrices et animateurs de notre association radio associative Micro Rebelle. Par ailleurs, je vous rappelle que chaque Micro Rebelle Hebdo est rediffusé par plusieurs radios associatives hertziennes, membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. C'est notamment le cas de Radio PFM qui nous rediffuse le vendredi soir à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche après-midi à 14h, ainsi que Radio Plus 104.3 à Douvrin qui nous rediffuse le mardi à 12h. Alors aujourd'hui en studio, comme d'habitude, il y a Luc, salarié de Micro Rebelle.
Bonsoir à toutes et à tous.
Il y a également Aurélie, adhérente de Micro Rebelle.
Bonsoir.
Et puis nos invités, hein, nos invités, comme maintenant depuis plusieurs semaines, on a souhaité donner la parole à celles et ceux qui se mobilisent. Hein. On a eu des lycéens, on a eu des gilets jaunes. Et bien ce soir, on a de nouveau une équipe sympathique de gilets jaunes. Alors je fais un petit tour de table, hein. Nous sommes avec Mathieu, bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Avec Ludovic.
Bonsoir.
Et avec David.
Bonsoir.
Et puis également Cynthia, bonsoir Cynthia.
Bonsoir.
Alors peut-être, puisqu'on parle d'actualité en ce début d'année, on a souhaité vous donner quelques petits points de repère sur l'actualité du moment, l'actualité sociale et politique. Alors dans l'actualité, il y a d'abord les résultats du CAC 40. Hein, le CAC 40, vous savez, ce sont les 40 plus grosses entreprises françaises qui sont cotées en bourse. Alors on a eu ces jours-ci les statistiques concernant les dividendes qui ont été distribués aux actionnaires du CAC 40. Alors en 2018, 57 milliards d'euros de dividendes ont été distribués aux actionnaires du CAC 40. 57 milliards d'euros. Ça fait une augmentation de 12,8%. Alors l'indice CAC 40, il a baissé de 10,95%, donc l'indice a baissé, mais les dividendes des actionnaires, ils ont considérablement augmenté. Donc c'est une première information qui nous est parvenue ces jours-ci. On peut mettre ça en parallèle d'ailleurs avec le salaire des grands patrons. On n'a pas les infos concernant 2018, hein, c'est encore trop tôt, mais en 2017, les PDG, autrement dit les dirigeants, du CAC 40, donc toujours les 40 plus grandes entreprises françaises, ont touché en moyenne 5,1 millions d'euros chacun. Je dis chacun parce que je ne sais pas s'il y a des dirigeantes, en fait, hein, dans ces entreprises. Donc en 2017, chaque dirigeant, 5,1 millions d'euros. Ça faisait 14% d'augmentation en un an. Autre actualité de ce début 2019... C'est le 10e anniversaire de la création de Pôle emploi, hein, donc en 2009. Avant, c'était l'ANPE, je pense qu'on s'en souvient assez facilement. Alors pour ce 10e anniversaire de Pôle emploi, on peut noter qu'en 10 ans, le nombre de travailleurs officiellement inscrits et comptabilisés à Pôle emploi est passé de 3,7 millions à 6,2 millions. Donc en 10 ans, le nombre de chômeurs qui ont été inscrits en plus à Pôle emploi sur une période de 10 ans. Autre actualité cette semaine, 200 personnes qui occupaient un logement vide à Paris ont été violemment expulsées par la police. Je crois que c'est aussi à mettre en parallèle avec l'ensemble des mouvements sociaux sur lesquels on discute actuellement. Enfin, et on en reparlera avec nos invités, l'actualité c'est toujours le mouvement social avec les Gilets jaunes. Ce mouvement a toujours un soutien important de l'opinion populaire et on peut le noter depuis une semaine, il y a maintenant des manifestations de femmes Gilets jaunes. Voilà, donc ça c'était pour situer l'actualité d'une manière générique. Maintenant, on va vous présenter notre agenda social et culturel dans le bassin minier et au-delà. Alors, première information de cet agenda, c'est le festival Lille Radier. Alors, ça se passe à Lille, hein, ça commence ce soir et ça se poursuit les 12 et 13 janvier. Alors, le festival Lille Radier, c'est un festival anti-nucléaire. Alors, je ne vais pas vous évoquer ce qui se passe ce soir, je vais plutôt vous évoquer ce qu'on va rencontrer dans les deux prochaines journées. Alors, le thème anti-nucléaire du festival, hein, Lille Radier, c'est que même en fonctionnement normal, le nucléaire irradie quotidiennement les populations et leur environnement. Le nucléaire cumule d'autres boulets, impact climatique non négligeable, soutien par la France des dictatures où se trouve l'uranium, risque d'accident apocalyptique, gestion autoritaire des territoires, tout ça pour une industrie qui coûte désormais plus cher que celle des énergies renouvelables. Alors donc le programme des deux jours qui viennent. Le demain 12 janvier, ça se passe au café coopératif Les Sarrasins. À 15h30, atelier d'écriture collective et détonnante avec l'association Du Vent dans les Mots. Alors que tu aimes écrire ou que tu n'aies jamais essayé, tu es le ou la bienvenue. C'est gratuit et c'est pour tout public. À 19h demain, toujours au café coopératif Les Sarrasins, une conférence gesticulée, Autostop Bure, par Marie Bédunot, suivie d'un échange. À 20h, c'est l'heure du repas. Ce sera un repas vegan à prix libre. Et à 21h, un concert militant et enjoué avec les Bures à l'heure. Le dimanche 13 janvier, donc le lendemain, cette fois-ci, ça se passera au cinéma L'Univers, 16 rue Georges Danton à Lille, métro Porte de Valenciennes, en partenariat avec l'association Robin des Bio. Donc quelques éléments du programme. À 15h, atelier marionnette pour les enfants. À 15h30, une discussion débat sur les alternatives citoyennes, une solution pour sortir du nucléaire avec la coopérative Enercop et les associations Solaire en Or, Solis et Virage Énergie Nord-Pas-de-Calais. À 17h, goûter vegan à prix libre. À 17h30, une conférence gesticulée, Autostop Bure, on en a parlé tout à l'heure. À 19h et à 20h, soupe et tartinade par l'association Robin des Bio. Et à 20h, projection du documentaire « Nucléaire, l'impasse française » réalisé par Patrick Benke, suivi d'un débat avec le collectif organisateur Lille Radier. Donc je vous rappelle, c'est ce soir, mais surtout demain et après-demain, à Lille, le festival Lille Radier. Toujours demain, samedi 12 janvier, ce sont les vœux de l'association Le Planning Familial. Alors le planning familial, on les connaît bien à Micro-Rebelle. Ils sont déjà intervenus plusieurs fois sur nos antennes. Et notamment, le planning familial diffuse sur Micro-Rebelle l'émission Le Gang des Hystéries. Et donc les vœux du planning familial, ça se passera demain. C'est l'après-midi de 13h30 à 17h dans les locaux du planning familial au 45 rue François Gauthier à Lens. Alors donc au programme de ces vœux, donc il est proposé aux participantes et aux participants le fait de faire des cartes de vœux féministes pour convaincre tous les amis à se convertir au féminisme et à la lutte contre le patriarcat. Au programme également se raconter des histoires qui seront enregistrées pour le Gang des Hystériles, donc sur notre radio Micro Rebelle. Et surtout enfin, il est prévu de papoter, de rigoler, de manger des gâteaux, de boire du chocolat chaud et puis aussi de faire des pancartes pour les prochaines manifs. Voilà, donc ce sera demain au Planning Familial 45 rue François Gauthier à Lens à partir de 13h30. Dans l'agenda, le jeudi 17 janvier, une conférence à Lille, Penser l'effondrement. Donc c'est de 18h à 20h à Sciences Po Lille, au métro République Beaux-Arts. Donc cette conférence Penser l'effondrement fait allusion au thème de l'effondrement de la civilisation industrielle. C'est un thème qui revient en force. Donc une conférence avec Vincent Mignereau, fondateur de l'association Adrastia, et Luc Semal, maître de conférence en sciences politiques au Muséum naturel d'histoire sociale. Voilà, donc c'est jeudi 17 janvier de 18h à 20h à Sciences Po Lille, métro République Beaux-Arts. Pour terminer cet agenda culturel et social, nous vous signalons une conférence débat samedi prochain, le 19 janvier, à 14h. C'est dans le cadre de l'Université populaire Che Guevara. Et c'est une conférence débat sur le syndicalisme. Je vous lis un petit peu l'intitulé de cette conférence. Hein. Des ordonnances Macron aux gilets jaunes, restrictions ou extensions du domaine de la lutte syndicale. Alors je suis d'accord, c'est peut-être un petit peu ronflant comme intitulé. Ça peut être une conférence intéressante pour nos auditrices et nos auditeurs parce qu'il y aura la présence de l'historien Stéphane Pirot. C'est vraiment un historien des luttes sociales. Donc c'est le samedi 19 janvier à 14h, salle municipale du Bon Accueil à Lens. Alors ça se trouve au niveau accès sortie 13, parking Stade Léo Lagrange, au numéro 6, rue du Stade. Et il faut entrer par le rez-de-chaussée de l'immeuble, porte au fond à gauche, samedi 19 janvier prochain.
Merci Lucien. Je reprends la parole pour donner quelques dates, cette fois-ci spécifiques à Micro Rebelle, les dates importantes. Alors d'abord, nous lançons en 2019 une série d'ateliers radiophoniques mensuels qui permettra d'apprendre les techniques et différents formats radiophoniques, reportages, interviews, débats, création de jingles, etc. Donc d'apprendre ensemble selon ses envies. C'est des ateliers qui sont ouverts à tous et à toutes, qui sont gratuits, pédagogiques et improvisés. Quand je dis improvisés, c'est qu'effectivement, on animera l'atelier en fonction de ce que les gens ont envie de faire. Donc le premier de ces ateliers aura lieu le mercredi 16 janvier, de 15h à 17h à Micro Rebelle, donc dans nos locaux, au 13 rue Victor Hugo, à Liévin. Donc le nombre de places est limité. Néanmoins, j'ai envie de proposer aux Gilets jaunes, s'ils ont envie d'apprendre à faire de la radio, c'est peut-être l'occasion. On en reparlera plus tard, mais voilà, pourquoi pas essayer, ça peut être un bon compromis. Ensuite, toujours à Micro Rebelle, le samedi 26 janvier, un autre rendez-vous mensuel que nous instaurons, ce sont les assemblées générales de Micro Rebelle, donc elles auront lieu chaque dernier samedi du mois. Et la première aura lieu, je l'ai dit, le 26 janvier de 10h à 12h30, pas chez nous, mais au lac qui est 23 avenue Jean Jaurès à Liévin, c'est pas très loin. À l'ordre du jour, l'actualité sociale et le positionnement politique et médiatique de micro-rebelles sur les mouvements sociaux, notamment les gilets jaunes, les jeunes, les lycéens, les étudiantes, étudiants, les stylos rouges aussi qui débarquent. Enfin, mercredi 30 janvier, atelier radiophonique pour enfants et jeunes ados uniquement cette fois. Alors ce sera de 15h à 17h au café Nino Kid, le café des enfants qui se trouve en face de la place Gambetta de Liévin, pardon. Alors ça inaugure également un rendez-vous radio régulier, par contre ici c'est réservé aux enfants adhérents du café Nino Kid et c'est sur inscription. Pourtant que ça ne freine personne, au contraire, pourquoi pas devenir adhérent, membre de cette association Nino Kid où il y a plein d'activités sympas pour les enfants. Voilà, c'est terminé pour l'agenda.
Eh bien, merci Luc. Alors, on va enchaîner notre micro-rebelle hebdo hein, sur micro-rebelle.fr, sur Radio PFM 99.9 et sur Radio Plus 104.3 par une petite revue de presse hein, que nous avons préparée, Aurélie et moi. Alors, je vais commencer, si tu m'autorises, Aurélie. Je vais évoquer ce qu'on a pu lire dans la presse, hein, notamment concernant les mouvements sociaux. Alors, j'ai parcouru la presse, toute la presse locale hein, cette dernière semaine. Alors, personnellement, j'ai envie de dire que les manifestations pacifiques depuis le week-end dernier, elles ont eu un faible écho médiatique, hein, dans la presse d'une manière générale, alors que le gouvernement semble faire de la violence l'élément principal de la mobilisation. Quand on écoute un petit peu... alors, la stratégie gouvernementale, c'est donc finalement répression et grand débat. Alors pour le grand débat, on peut largement penser qu'il s'agit en fait d'une grande diversion. On en discutera avec nos invités. Une question peut se poser, hein. Un débat peut-il apporter des réponses quand on sait, comme cela a été annoncé, qu'il n'y aura pas de changement de cap? C'est ce qui a été annoncé, pas de changement de cap après le grand débat. Par exemple, le rétablissement de l'ISF, hein, l'impôt sur la fortune, soutenu par deux tiers des Français. Deux tiers des Français souhaitent le rétablissement de l'ISF. Eh bien, ce point est par avance exclu du grand débat. L'autre volet, donc, c'est la répression. Par exemple, avant l'acte 9 des Gilets jaunes, hein, c'est une mobilisation policière démesurée qui se prépare. Et enfin, une nouvelle loi pour brider le droit de manifester. La mobilisation policière, c'est pour tenter de mettre fin au mouvement par la force. La nouvelle loi en préparation vise à sanctionner celles et ceux qui ne déclareront pas une manifestation ou qui arrivent cagoulés à une manifestation. Il y aurait également la création d'un fichier permettant d'interdire l'accès aux manifestations. Tout cela vise à empêcher des opposants politiques de manifester dans la rue. Quant à l'obligation de déclarer une manifestation, l'objectif est clair. Il y aura les bonnes manifestations qui seront autorisées et les manifestations interdites. Par exemple, une manifestation qui bloque une usine ou un grand magasin pourrait être interdite. Dans la presse régionale, on retrouve tous ces éléments. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, dans La Voix du Nord, aujourd'hui, 11 janvier, La Voix du Nord distribue les mauvais points et les bons points, tout en précisant, je cite, « la mobilisation faiblit dans le Nord-Pas-de-Calais ». Dans les mauvais points, la Voix du Nord évoque les heurts qui ont éclaté lors de certaines mobilisations des Gilets jaunes. Donc on met en avant les aspects heurts. Dans les bons points distribués par la Voix du Nord, il y a, je cite, « certains ont fait le choix de s'associer à de bonnes actions, collecte de sang, opérations au profit d'associations ». Avec la Voix du Nord, la vie est très simple. Il y a les vilaines choses et les bonnes choses. Et puis, pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes, La Voix du Nord a choisi une bien curieuse tactique. Le journal, dans son édition de mardi 8 janvier, publie une page complète de courriers d'électrices et lecteurs, une page complète qui condamne les violences. La Voix du Nord précise « la proportion de courriers condamnant les violences de certains manifestants est de plus en plus importante, comme le soutien au mouvement serait d'ailleurs moins important selon les derniers sondages. Enfin, pour la première fois, des lecteurs appellent à une contre-manifestation, comme un certain 30 mai 1968, pour faire cesser le mouvement. Et effectivement, s'en suivent sur toute la page 10 courriers condamnant les violences des manifestants. La presse locale évoque également les cahiers de doléances mis en place dans plusieurs mairies. J'ai relevé en vrac dans la Voie du Nord la ville de Grenay, qui a été la première ville dès le 7 décembre, la ville de Salomine, avec des cahiers disponibles à 4 endroits, ainsi qu'un formulaire en ligne. Quelques doléances ont été recueillies à Bénifontaine, Ablain-Saint-Nazaire, Vimy, Vendin-le-Vieil, Ulu ou Angres. Plusieurs villes n'ont, toujours selon la Voie du Nord, recueilli aucune doléance. Ce serait le cas d'Estevel, de Losangouel, de Lens ou encore Vingles. Des registres de doléances sont annoncés à Hénin-Beaumont, Montigny-en-Goële, Meurchin, Pont-à-Vendin ou Annie et Bully-les-Mines. Qu'est-ce que nous disent ces cahiers? Dans Liberté Hebdo cette semaine, on peut avoir quelques exemples au travers du cas de la ville de Marly dans le Nord. Le maire de la ville est interrogé par Liberté Hebdo. Je cite. Donc c'est un interview. Vous attendiez-vous à un tel engouement? Réponse du maire. Je ne m'attendais pas à voir une telle demande de la part des habitants. Nous sommes à plus de 200 témoignages d'associations, de retraités et publics divers. Question du journaliste. Quelles sont les propositions qui reviennent le plus souvent? L'augmentation du SMIC de 200 euros par mois. Le retour à l'impôt sur la fortune. Baisser la CSG. Les citoyens insistent sur l'importance du maintien des services publics et leur développement. L'hôpital, l'école, la ruralité avec les bureaux de poste. Ils représentent un atout considérable. La Voix du Nord donne également quelques exemples issus de ses cahiers de doléances. Je cite « Augmentation du SMIC jusqu'à 1 800 euros. Fin de la hausse des taxes sur les retraites et les carburants. Retour de l'ISF, mise en place du RIC. » La Voix du Nord cite également quelques témoignages nauséabonds, et notamment, je cite, « Les étrangers ont plus de droits que les Français. » Heureusement, il y a également « L'éducation et la culture doivent être les premiers budgets. » La Voix du Nord cite enfin un dernier témoignage « Je voudrais que Monsieur le Président pense aux petites retraites. Pour ma part, je suis toujours dans le rouge à la fin du mois. Il faut que ça change. » Alors avant de donner la parole à Aurélie, je termine cette revue de presse en précisant que je n'ai pas évoqué une seule fois l'avenir de l'Artois. Je l'ai pourtant lu attentivement. Eh bien, je n'ai trouvé dans l'avenir de l'Artois aucun article consacré aux mouvements sociaux. Quand je vous disais tout à l'heure que les manifestations pacifiques depuis le week-end dernier n'ont eu qu'un faible écho médiatique, ça en est une illustration. Alors je termine peut-être par une dernière information qui, hors le mouvement des Gilets jaunes. Je vais vous lire cette brève que j'ai vue dans Liberté Hebdo de cette semaine. Chantage à l'investissement chez Bridgestone à Béthune. Bridgestone, le fabricant de pneus, investira dans le Pas-de-Calais si les salariés acceptent de travailler plus pour moins. C'est le chantage imposé aux représentants du personnel à qui la direction fait miroiter des investissements comparables à ceux d'autres usines du groupe en Europe. Bridgestone doit devenir plus agile, plaide le nouveau directeur France Tom Adam dans La Voix du Nord le 4 novembre. L'industriel japonais emploie un peu plus d'un millier de personnes à Béthune. Je laisse maintenant Aurélie.
Merci. Un article paru le 10 janvier dans Politis parle de l'habitat indigne en France, sujet dont on parle peu, voire jamais, comme si dans l'imaginaire collectif, l'habitat indigne n'était que le résultat de la fabulation des plus fous. Pour Xavier Delannoy, je cite, « La réalité de l'habitat indigne est une réalité silencieuse. Elle semble même oubliée par l'État qui établit des lois 2.0, finances des aides, pour au final enlever celles précédemment acquises. Une question se pose. Pourquoi faire du profit sur le dos de ceux qui sont déjà à bout ? La réalité des choses, la situation extrêmement difficile de ces Français qui vivent dans ces logements insalubres, semble complètement leur échapper. Et pourtant, la sonnette d'alarme ne cesse d'être tirée, notamment à Marseille, où deux vieux immeubles se sont écroulés récemment. Est-ce normal qu'aujourd'hui encore, quelques milliers de personnes ne puissent pas vivre décemment dans un endroit propre, pardon ? À Marseille, c'est 1900 personnes qui attendent d'être relogées, mais à l'échelle de la France, c'est beaucoup plus. L'article mentionne qu'il y aurait environ 600 000 logements indignes en France, et c'est pour cette raison que 4 associations luttent pour obtenir un plan national afin d'atténuer, voire à l'idéal de faire disparaître, ce fléau. Un article paru dans La Brique récemment parle d'Henri L'Enfant, 23 ans, abattu de 3 balles par un gendarme dans la nuit du 29 septembre à Fouquier-les-Lances. La question qui se pose est pourquoi ? Pourquoi Henri, 23 ans, s'est fait fusiller par ce gendarme ? La réponse est encore aujourd'hui inconnue. Ce qu'il s'est passé cette nuit-là reste un mystère pour la famille d'Henri. En effet, que faisait la brigade du GIGN sur les lieux, alors que leur action habituelle, à savoir gérer les crises, le terrorisme et les prises d'otages, n'ont rien à voir avec cette triste affaire ? Les médias ont eu tendance à banaliser l'affaire, à rendre Henri coupable, avec son frère Bruno, de faire partie d'une bande de délinquants. Et même si c'était véridique, est-ce une bonne raison pour affliger une personne de 3 balles ? Cette affaire est assez floue, et la famille semble être violentée par les forces de l'ordre qui ont refusé de donner l'identité du défunt le soir du drame. Durant plusieurs jours, la famille est vraisemblablement, harcelée, je cite, « La famille qui arrive de Boulogne, les amis qui viennent nous soutenir, ils ont tous été verbalisés. Ils ne nous laissaient pas passer. On devait se battre à chaque fois qu'on revenait des courses pour rejoindre nos caravanes. Pour les gens du voyage, c'est une humiliation. Et les échanges tendus n'arrangent pas la situation. On en a tué un. On peut encore tuer l'autre, leur ont dit un des policiers. » S'agirait-il d'un crime purement raciste, de la haine d'un gendarme ? Les questions restent sans réponse. Et c'est pour cela que la famille d'Henri vous invite à vous rejoindre massivement à leur lutte en venant à la manifestation du samedi 19 janvier à Béthune à 15h sur la Grande Place.
Petite pause musicale sur Micro Rebelle avant d'entamer la discussion avec les Gilets jaunes présents en studio. On écoute 5AM, c'est un producteur américain et le titre c'est Wondering. Wondering, vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, une émission enregistrée dans les studios de Micro Rebelle à Liévin, une émission également rediffusée sur Radio PFM à Arras et sur Radio Plus à Douvrin. Alors aujourd'hui avec nous, nous avons 4 personnes qui sont mobilisées dans le mouvement des Gilets jaunes, Cynthia, David, Ludovic et Mathieu, merci d'être là. Je voulais commencer tout simplement... est-ce qu'on peut resituer un peu dans la nébuleuse des différents groupes de Gilets jaunes qui existent dans le bassin minier, les groupes auxquels vous appartenez ? Parce qu'au début, il y avait le blocus Lens-Liévin, il y a d'autres groupes. J'ai un peu de mal, moi, vraiment, donc je pense que je ne suis pas le seul. Donc si vous pouvez me repréciser ça nous aiderait un petit peu.
Mathieu, donc nous, en fait, on a monté notre groupe qui s'appelle La Voix du Peuple en Colère. Donc nous en fait c'est un groupe qui est 100% pacifiste pour le moment, toutes nos manifestations sont déclarées ainsi que nos différents comme on dit, un QG, un quartier général sur lequel les gens peuvent nous rejoindre et échanger avec nous. Donc là, pour le moment, on est sur Élodie Louette, c'est juste à côté de Lens, et on a un arrêté, non pas préfectoral malheureusement, on a un arrêté municipal.
Ouais.
Municipal, voilà.
Très bien, merci. Autre petite question pour commencer et situer un peu, est-ce que chacun d'entre vous, chacun votre tour sans trop s'étaler pour que tout le monde puisse s'exprimer, vous pouvez nous faire un bilan un peu global et personnel de votre sentiment sur votre propre implication dans le mouvement depuis 2 mois. Comment vous, ça vous a un peu transformé, ce que ça vous a apporté et quels sont peut-être aussi vos espoirs vis-à-vis de ça. Et aussi, quelle vision vous avez du mouvement global, nationalement?
Alors, au niveau national... On ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. On a peur aujourd'hui parce que il y a de plus en plus de choses qui sont dites à la télévision. Je parle notamment de BFM que nous boycottons parce que on est maintenant conscient que cette chaîne d'information est totalement corrompue, que ça risque de tirer, qu'ils ont l'ordre de tirer. Donc on espère pas arriver sur une guerre civile. Voilà, parce que nous on pense aussi à l'après du mouvement, et si quelqu'un perd son sang-froid au niveau des forces de l'ordre et qui viendrait à tirer, ce serait une guerre civile, et nous on commence à se poser la question à savoir si c'est pas ce qui est recherché aujourd'hui.
Il y a une inquiétude vis-à-vis d'une montée en puissance de la violence.
Tout à fait.
D'accord. Et Ludovic, toi, ton sentiment sur ton implication dans le mouvement, sur ce que t'en retires jusqu'ici à présent?
En fait, on ne voit pas les choses bouger, en fait. On ne voit pas les choses bouger, en fait. Voilà. On est là, ça fait 2 mois, on ne nous parle pas. On nous laisse comme ça, sans rien dire. C'est pas logique.
Il y a un sentiment de pas être écouté.
Pas
quoi.
Être écouté, ouais. On peut faire des grands débats, décider là, mais on n'est jamais écouté, en fait.
Donc pour l'instant, tu retires quelque chose de plutôt négatif, c'est ça que tu...
Négatif, ouais.
Ah ouais. Ça use un peu.
Bah, on est fatigué, ouais. Mais on tiendra, on lâche rien.
Très bien, David.
Bah écoutez, moi, ça fait depuis un moment que je suis sur le mouvement. Et je pense que le gouvernement, en fait, fait toujours le sourd, complètement. On essaie de faire bouger les choses en se faisant montrer sur les ronds-points, sur les manifestations. On explique les choses. Mais comme ça soit le gouvernement, le président, Castaner, lui c'est même pas la peine d'en parler, parce que lui, voilà quoi, c'est ses bonhommes en priorité, les gilets jaunes en dernier. Donc je veux bien, mais on est déjà nous pacifiques, on n'est même pas protégés. Je comprends pas que quand on lève les mains devant les CRS, on nous tire au flashball, on nous gaze, on nous matraque, et ensuite il faut rester encore pacifique. Moi, je vous le dis de ma personnalité. Je vous le dis franchement, je me fais gazer, je me fais matraquer ou je me fais flageoler. Je vais vous dire que je vais réagir. Et je ne resterai plus les mains libres, sans bouger, parce que c'est en fait, ça fait plusieurs semaines, on essaie de rester pacifique. Le problème, c'est que tout le monde commence à en avoir marre. Tout le monde va commencer à bouger. Donc, voilà que le gouvernement commence à prendre des décisions qui soient bien radicales pour qu'on puisse nous baisser et dire voilà, c'est bon, on arrête. Mais le problème, c'est que le gouvernement, avec sa puissance, comme j'appelle, les CRS, hein, c'est pas que les CRS, hein, je mets pas tous les CRS dans le même lot, hein, mais je vais dire...
On peut.
Oui, on peut, tout à fait. Mais je veux dire, pour en arriver où? Ils cherchent de quoi exactement? En fait, ils nous cherchent, c'est ce qui a nous provoqué, qu'il y en a un CRS qui soit touché ou mort, et là, ils vont réagir. Ils vont dire, on a l'occasion de tirer. Non, on n'attend pas ça, je suis désolé. On attend une réponse du président, qui donne une bonne réponse, qui retient, ses, comme on dit, les chiens de garde. Quoi.
Très bien.
Voilà.
Cynthia, voilà, tu peux prendre ce micro-là.
Alors, moi, ce que j'en retire, c'est qu'on est, on n'a pas de président. On n'a pas de président. Enfin, en ce qui concerne la France, il n'y a pas de président. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire dans les pays européens ou ailleurs, il y va. Mais quand c'est question d'affronter les gilets jaunes ou leur parler, soit on est pris de haut, ou alors on a l'impression qu'ils ne nous entendent pas, ils ne nous comprennent pas.
Ils nous méprisent voilà. Directement.
Voilà. C'est du mépris, de la stigmatisation. Bah oui, on envoie la police. On envoie la police, alors que c'est ni plus ni moins que légitime d'aller réclamer ce dont on a besoin. Parce que les gens, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont froid. Il faut absolument qu'il y ait des choses qui bougent. Il y a des gens qui travaillent, des gens qui... Voilà, hein, l'augmentation de salaire. Déjà, l'augmentation de salaire, elle était prévue, donc qu'on ne nous la calcule pas là-dedans. Mais quand on dit 10 ou 15 milliards d'euros, ça fait peur aux gens. Et ils se disent, bah, c'est bon, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Non, 10 ou 15 milliards d'euros, c'est pas ce qu'on voulait.
C'est une goutte d'eau pour
eux. C'est une goutte d'eau, voilà. C'est rien du tout, 10 à 15 milliards d'euros. Voilà, il arrive un moment, il faut remettre les choses dans leur contexte. Combien d'argent ils nous prennent chaque année à chaque Français? Avec ça, je suis désolée, ils peuvent financer plutôt que jouer au ping-pong, c'est-à-dire prendre dans les salaires pour payer une prime d'activité et prendre. Voilà, de toute façon, c'est même pas une hausse du SMIC qu'ils ont donné ou une aide ou quoi que ce soit, enfin un coup de pouce. C'est ni plus ni moins que de l'aide sociale et on n'est pas des cas sociaux. Voilà.
Merci. J'avais envie d'embrayer maintenant sur les actions propres aux gilets jaunes. Au départ, il y avait beaucoup de blocages de supermarchés, de zones industrielles, d'entrepôts logistiques. Et ça avait bien fonctionné en décembre. Ça pesait réellement sur l'économie. Ça maintenait une pression aussi sur le gouvernement, sur les dirigeants politiques. Je ne sais pas si ça a repris ça en début d'année 2019. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça, son mode d'action?
Alors, en fait, on en est... pour le moment, nous, pour notre part, on est dans le dialogue. C'est-à-dire que là, pour le moment, on essaye, avec très peu d'espoir, de passer justement par ce grand débat. Donc pour le moment, on évite les blocages, on continue à se mobiliser, à faire voir qu'on est toujours là. On se déplace dans les différentes réunions, on prépare justement le grand débat. Même si, honnêtement, j'ai aucun espoir sur le grand débat. De toute façon, aujourd'hui, moi, c'est clair et net que la solution qu'on a, c'est d'abattre la 5e République. Voilà. Tout simplement, parce que cette 5e République est trop ancienne, elle ne fonctionne plus et il faut arrêter de prendre des gens à la télévision, des gens, excusez-moi, que je qualifie d'incultes. Ça veut dire que c'est des gens, en fait, excusez-moi le terme, qu'ils ont un CAP cuisine et qui veulent faire de la politique, en fait. Alors qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Moi, je suis très franc, je suis très cru dans mes mots et je l'assume totalement. Aujourd'hui, c'est bien beau de dire une hausse des salaires, mais il faut parler d'une hausse de salaire, non pas en pourcentage, mais une hausse des salaires en salaire net. Je vous explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, un smicard, il gagne 1300 euros par mois, admettons. On va lui dire, on fait une hausse de 1%. Ça lui fait 13 euros. Par contre, vous prenez quelqu'un qui a une hausse de salaire, mais que lui, il gagne 10 000 euros par mois, ça lui fait une hausse de 100 euros. Donc en gros, encore une fois, ce sont les plus riches qui touchent et les plus pauvres qui ont que dalle. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est tout simplement, si on veut faire une augmentation de salaire, c'est possible. C'est possible tout simplement en faisant une augmentation de salaire, non pas de 800, non pas de demander le SMIC à 1 800 euros. Faut arrêter, au bout d'un moment, faut être réaliste. C'est le salaire d'un cadre. On peut pas demander un SMIC à 1 800 euros. Mais une augmentation des salaires, par exemple, de 70 euros, chose qui est tout à fait possible, en baissant les charges patronales. Voilà. On descend les charges patronales, on dit ben voilà, on les descend de 70 euros, mais par contre, il faut les remettre à votre employé. Ça, c'est possible aujourd'hui. Ce sont toutes des choses qui sont possibles. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner le fond de ma pensée.
Quand je dis qu'il faut abattre la 5e République, c'est tout simplement à passer à quelque chose de nouveau. Il faut que le peuple reprenne le pouvoir aujourd'hui. Et on a une solution, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Parce qu'on a tous des milieux sociaux différents. On a tous des problèmes qui sont différents. Et on est tous dans la rue parce qu'on a tous des problèmes. Que ça soit les chômeurs, les personnes qui travaillent seules, les personnes qui travaillent à deux, les personnes au RSA, les petits patrons. On a tous des problèmes qui sont différents. Donc faire un grand débat, en fait, il essaye juste de gagner du temps. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est t'as plus de temps. Aujourd'hui, c'est terminé. Le temps, ça suffit. Nous, on veut le référendum d'initiative citoyenne. Tu dégages, tu t'en vas, ça suffit. Ça fait 2 ans maintenant que t'es au pouvoir et tu fais que nous enfoncer. Et aujourd'hui, stop. Et en faisant le RIC, en le destituant, on peut le faire. Et derrière, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais après, on fait quoi ?» Ben, moi, je vais vous le dire ce qu'on fait. On met le général de Villiers au pouvoir en attendant, parce qu'il nous faut l'armée en France. C'est important d'avoir l'armée. Donc le général de Villiers, on le met au pouvoir en attendant qu'on fasse des élections présidentielles et avec des lois que nous, le peuple, aura votées. Des lois qu'on aura mis en place, comme par exemple une loi où si la personne qui se présente aux prochaines élections présidentielles ne tient pas ses paroles, on peut la destituer. Comme ça, là, quand ils font leur programme, ben, ils vont réfléchir à deux fois.
Alors, parce que là, tu brasses énormément de choses. On va essayer. Il y a plein de questions qui sont censées venir après. On va poser un peu nos valises, parce que là, tu parles de la révocation des élus, tu parles de la hausse du SMIC, tu parles du RIC. Je voulais entamer d'abord effectivement sur cette question de grand débat, parce que tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir, pourtant vous y participez quand même, donc est-ce que ça vaut le coup de s'y investir et qu'est-ce qu'on peut espérer en tirer, parce que c'est effectivement une manœuvre pour gagner un peu de temps. Bon, les autres ont le droit de répondre aussi, mais
je vais répondre. En fait, on s'investit dedans pour dire qu'on aura fait les choses correctement. Pour pas qu'on dise que oui, ils sont partis tout de suite à la violence, alors que nous, on avait essayé le dialogue. Non, au moins, on passe par le dialogue, et au moins, on pourra pas dire que les Français n'ont pas fait les choses dans les règles. On suit leurs règles pour le moment. Après, une fois qu'on aura remis ces cahiers de doléances et remis ce que le peuple veut, c'est eux qui auront les cartes en main. Et si là, ils ne prennent pas les bonnes décisions, ben, on pourra pas nous reprocher de ne pas avoir fait les choses comme il faut.
D'accord. Je voulais parler un peu pour savoir et pour que les auditeurs et les auditrices puissent se représenter un peu aussi le mouvement. Comment vous vous organisez parce que l'un des intérêts des Gilets jaunes, c'est que c'était très spontané, qu'il y avait une structuration par le bas du mouvement, assez horizontale. Au départ, beaucoup de méfiance vis-à-vis des porte-paroles, une volonté de démocratie directe. Je voulais savoir où votre groupe, vous en êtes en termes d'organisation. Est-ce que les décisions que vous prenez, ça se fait dans des assemblées générales? Est-ce qu'il y a des mandats qui ont été donnés à des personnes, peut-être pour pouvoir faire remonter et avoir une organisation nationale aussi? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous...
Alors, pour le moment, dans notre groupe, non, c'est pas vraiment ce qui se passe. Moi, les gens me considère, on va dire, plus ou moins comme un porte-parole parce que j'ai une très bonne élocution. Donc en général, ils me disent bah, vas-y Mathieu, parce que tu parles bien, tu sais mettre les mots où il faut, etc. Mais moi, en fait, je représente personne. Ce que je représente, c'est le groupe. Ça veut dire que nous, par exemple, lorsqu'on veut faire une manifestation déclarée en préfecture, nous, sur notre groupe, en fait, on met 3 itinéraires différents et ce sont les gens qui font partie du groupe qui choisissent l'itinéraire. Donc nous, en fait, on avance tous ensemble. Donc après, forcément, lorsqu'il y a des représentations, etc., on préfère envoyer une personne bah, qui sait s'exprimer correctement. Donc en l'occurrence, là c'est moi, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est les gens qui me disent « bah vas-y, comme là, on a été au grand débat organisé par le maire de Liévin, c'est le maire de Liévin lui-même qui m'appelle à aller devant, alors que moi, je voulais me mettre derrière. » Donc forcément, mais sinon non, on n'a pas de mandat, on fonctionne toujours pareil, tous ensemble, tous unis, et on prend tous les décisions ensemble, et c'est ça en fait qui est important.
Enfin moi je pense que pour regrouper tous les Gilets jaunes dans un endroit, il faudrait, comme il dit, toujours avoir un arrêté, ou regrouper tout le monde pour qu'on puisse parler. Chaque fois qu'on trouve un endroit, ou un rond-point, ou peut-être une salle qu'on pourra avoir ou quoi, on nous interdit. On a toujours quelque chose qui nous interdit de faire quoi que ce soit. On peut bouger n'importe d'où, on a toujours les flics derrière notre cul, ils nous interdisent tout, 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 tout. Là, sur le rond-point, on avait un arrêté jusqu'à 18h ou 20h ce soir. 20h ce soir. On est venu, On nous a dit de déloger un peu plus loin parce que ça gênait le passage. Mais où exactement la tonnelle peut être posée ? À un endroit précis ? Dans ces cas-là, on fait un marquage au sol avec des couleurs et puis ils nous mettent juste là, c'est tout, on bouge plus. C'est pas possible.
D'accord, mais toujours est-il que pour revenir à cette question, par rapport à l'organisation du groupe, un mandat, c'est pas un représentant. La personne, elle peut juste transmettre les informations du groupe et à la limite être évocable comme les élus, ce que tu disais au départ.
Oui, voilà, c'est pour ça qu'on va, on va aux réunions des maires pour dire de parler de tous nos problèmes, en fait. C'est à eux de remonter l'info.
Donc, d'accord.
Il n'y a que le maire qui peut avancer.
En fait, le truc, c'est que on participe au cahier de doléances. On va participer au grand débat de toute façon parce que on ne nous en laisse pas le choix. On n'a pas le droit de manifester. Parfois même des manifestations qui sont déclarées, parfois même on se fait refouler. Le trajet à effectuer, tout compte fait, des CRS qui font dévier du trajet de base. On se demande ce dont on a le droit dans ce pays, à part se taire et cacher la misère. Cacher ce qui se passe vraiment, occulter, on occulte tout ce qui se passe dans la France d'en bas, tout ce qui se passe, la France, enfin, j'ai l'impression que pour ce gouvernement, pour l'étranger, l'Europe et les pays d'Afrique, les pays aux États-Unis, etc., tout ce qui fait en international, c'est du paraître. Mais ce qui se passe ici vraiment sur le sol, on ne sait pas.
D'accord. Tu veux dire quelque chose, Lucien ? Vas-y.
Enfin, je rebondissais sur ce que disait Cynthia, parce que ça me semble tout à fait intéressant. Ça complète ce que disaient aussi David et Mathieu, évidemment. Hein. En fait, bon, d'un point de vue vie démocratique, ils font ce qu'ils veulent, quoi.
Voilà, exactement.
Ils font ce qu'ils veulent.
J'ai l'impression qu'ils veulent nous faire taire, en fait.
En fait, ils veulent te faire comme le pays, l'Ukraine.
Voilà. Une dictature. La dictature.
C'est
une
dictature, en fait. C'est ferme ta bouche et obéis.
Maquillé. Bah,
voilà, c'est une dictature moderne pour moi. Parce que, je veux dire, c'est bien beau de nous dire, déclarez vos manifestations.
On fait tout dans les règles.
Mais quand on va les déclarer, on nous les change complètement. On nous les dévie complètement. On nous impose les chemins à prendre. Quand on vient et qu'on essaye d'avoir des arrêtés, moi je vais vous dire, hein, je suis fichier J. Aujourd'hui, je suis fichier J. Il y a les fichiers S, et aujourd'hui...
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, ça veut dire que je suis fichier gilet jaune en tant que leader.
Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir.
Et voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, et c'est réel. Hein, et c'est réel. Je suis sur écoute. Mon téléphone est pisté, ils savent où je suis, tout le temps. Ils savent exactement tous les messages que je peux mettre sur Facebook. Et ils m'appellent pour me menacer, sauf qu'avec moi, les menaces, ça marche pas. Parce que, comme je leur dis, vous connaissez vos lois, mais moi aussi, je les connais. Parce que moi, je me renseigne beaucoup.
Et quel genre de menaces tu reçois de la part de la police ?
Des menaces comme quoi, si jamais il y a des blocages, si jamais dans les manifestations ça se passe pas bien, je serai
porter la responsabilité.
Voilà. Sauf que, à savoir que ça, c'est faux, mesdames, messieurs, nos auditeurs, auditrices, sachez que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas être tenu responsable de casse, par exemple, dans une de vos manifestations. Si vous avez suivi le plan qui était tracé, vous ne serez pas responsable.
Chaque citoyen est responsable de ses actes.
Voilà, ouais, parce qu'on veut aujourd'hui, moi je le dis haut et fort, la police veut nous faire peur. Et aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans ce piège de la peur. Il faut rester debout. Aujourd'hui, la France s'est relevée et il faut rester debout. C'est quelque chose d'important. Il ne faut pas avoir peur de rejoindre différentes manifestations qui sont déclarées en préfecture. Il ne faut pas avoir peur de rejoindre des quartiers généraux qui sont déclarés. Il faut aujourd'hui venir et faire entendre aussi, parce que on a tous des colères aujourd'hui qui sont différentes, bien sûr, parce qu'on a tous, comme je disais tout à l'heure, des vies différentes. Mais on en revient toujours au même point. Tout ça, c'est à cause de 20 ans, parce que ce n'est pas que monsieur Macron, parce que je l'appelle pas le président, parce que pour moi c'est pas mon président, mais ce n'est pas que monsieur Macron. Ça fait 20 ans qu'on subit une politique qui est complètement désastreuse, qui ne pense qu'à prendre à chaque fois l'argent du contribuable et à chaque fois s'en foutent plein les poches. On a combien de milliards d'euros de fraude fiscale à chaque fois qu'il y a des présidents ? À chaque fois, on en a. Et à chaque fois, c'est l'argent de qui ? C'est l'argent des contribuables, c'est l'argent des Français. Et aujourd'hui, tout ça, on en a marre. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut abattre la 5ème République et passer vers une nouvelle République, la République du peuple.
Justement, peut-être pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Hein, effectivement, on entend bien tout ce qui s'est dit autour de la table, quoi. Tout ce qu'on fait, on le fait bien, on déclare, on est pacifique, etc. Et pourtant, on est bafoué.
On est bafoué. Et la police nous provoque. Elle essaye de nous pousser à bout.
Peut-être pour essayer. Enfin, je dis un petit peu comment moi je lis un petit peu ce scénario. Je pense que ce que fait le gouvernement, c'est que il protège. Il est au service de ceux qui ont l'argent.
Oui, exactement.
Tout à l'heure, je disais 57 milliards de dividendes pour les grands patrons du CAC 40. Milliards.
Et après, on nous reproche, nous, pauvres petits Français du bas de la France, du fin fond de la France, on nous reproche
de trop dépenser même.
De trop dépenser, et on nous reproche le fait d'avoir les hôpitaux gratuits, le fait d'avoir l'école gratuite, et on nous reproche le fait d'avoir 10 à 15 milliards d'euros de dépenses à prévoir pour notre vie, à nous.
Exactement.
Voilà.
Après, je te redonne la parole tout de suite. Hein. Je finis mon fil. Donc, ce pouvoir, son but, il est là pour ça, c'est protéger, défendre, être au service de ces patrons du CAC 40,
on est dirigé par
les banques, on est dirigé par un système,
par le capitalisme.
Voilà. Et donc comme il y a des gens qui se révoltent, c'est inadmissible pour eux, c'est inadmissible parce que ça peut déboucher sur la remise en cause de leurs intérêts, quoi.
Voilà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que pour moi, M. Macron, ce n'est qu'un pantin de la mondialisation. Parce que quand on parle du CAC 40, le CAC 40, c'est quoi ? Ben, ce n'est pas que des entreprises françaises. Ce n'est pas que ça. Parce que le problème en France, c'est que tout ce qu'on avait qui nous rapportait de l'argent, on privatise. Les autoroutes, on les a privatisées. L'eau, on l'a privatisée. Là, maintenant, on parle même de privatiser les airports. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de vendre tous nos biens. C'est tout ce qui pouvait rapporter de l'argent à l'État. Et on le privatise pour gaver ceux qui ont déjà, excusez-moi le terme, mais la blinde. Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent même plus quoi en faire. J'aurais leur argent, je me rendrais malade parce que j'aurais tellement d'argent que je ne saurais même pas quoi en faire.
Et on leur fait encore des cadeaux fiscaux. Ouais, on leur offre encore 40 milliards de CICE pour créer de l'emploi, chose qu'ils ne font pas puisqu'ils ferment des petites supérettes, etc., qu'ils avaient mis en plein centre-ville, etc., pour commerce de proximité, qui servaient bien d'ailleurs aux personnes âgées ou bien même des personnes qui habitaient le quartier. Et résultat des courses, ils les ont fermés, ce qui fait que ça fait du chômage en plus, et ils n'embauchent pas derrière pour leurs grandes entreprises comme Auchan, Carrefour, tout ça. Ils sont censés faire de l'emploi, générer de l'emploi qu'ils ne font pas.
L'argent, là, il leur a servi à tenter le nouveau magasin, le magasin sans caissière.
Voilà. Alors, mais pour leur profit.
Mais voilà.
Je reprends la parole parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Alors, pour embrayer sur cette question du partage des richesses, c'est vrai qu'on a parlé un peu d'une hausse du SMIC. Moi je serais favorable. Je pense qu'une hausse forte du SMIC est possible. En mai 68, il y a une hausse du SMIC de plus 35% quand même.
En Espagne, sans qu'il y ait un seul gilet jaune.
Des retraites aussi.
De l'assurance chômage, du RSA. Voilà, pourquoi pas. Par contre, pour continuer, une revendication que j'ai un peu du mal, c'est souvent on entend la défense du patronat ou alors de ne pas vouloir toucher aux charges patronales. Et ça, j'ai du mal à le saisir parce que ça paraît pas à l'avantage des salariés. Le mouvement des Gilets jaunes est majoritairement composé de salariés, de travailleurs, de travailleuses, et que ces charges patronales, non mais tu m'expliqueras, mais je pose la question, et elles payent justement, comme tu disais, les services publics. C'est une manière, c'est une forme de revenu socialisé, mais pour le salarié quand même. C'est une partie du revenu, les charges patronales. C'est une revue. Pourquoi s'amputer de ça et réclamer à côté une hausse du SMIC ?
C'est la retraite, c'est la sécu, hein.
c'est la retraite, c'est la sécu, ouais, c'est ce genre de choses.
Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Mais tous ces gens-là qui sont à la retraite, c'est des gens qui ont cotisé pendant plus de 43 années pour certains. C'est des gens qui ont donné de l'argent à la France.
Ça, c'est pas des charges patronales, les retraités.
Mais comment ça? Le patron, il paye aussi pour les retraites. Hein.
Ah oui.
Ah bah oui.
Le patron, mais donc il faudrait augmenter les charges patronales pour qu'il y ait plus d'argent dans les retraites.
Ben non. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que les petits patrons, eux, si on augmente encore leurs charges patronales, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'effondrer parce que déjà aujourd'hui, les petites sociétés, elles croulent parce qu'elles sont taxées à plus de 50%, plus de la moitié de du fruit de leur travail. Même nous, les salariés, on s'en rend pas compte. Mais la triste réalité des choses, c'est qu'on est taxé à 50% aussi. Parce que le patron est taxé à 23% sur nos salaires et nous, on est taxé à 22%. Donc on est taxé à 50% à chaque fois. On est taxé à 50%. On nous dit, c'est pour les hôpitaux, c'est pour les écoles. D'accord? Ok. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de licencier des infirmières? Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de licencier des aides-soignants? Pourquoi est-ce qu'on licencie des professeurs? Chaque année, à chaque fois, il y a des suppressions de postes dans ces domaines-là.
Fermeture de services hospitaliers. Ouais. Les infirmières qui n'en peuvent plus parce qu'il y a une restriction budgétaire. Donc forcément, on restreint le personnel. Les infirmières n'en peuvent plus. Les aides-soignantes n'en peuvent plus. Je ne parle pas de MAPAD parce que en gériatrie, c'est encore pire.
4 minutes 30 pour changer et laver et habiller une personne âgée. 4 minutes 30.
3 minutes 30.
On a déjà entendu des décès suite à malheureusement, le fait que cette personne, peut-être s'il y avait eu une personne en plus ou un peu plus d'attention qu'elles ne peuvent pas donner parce qu'elles n'ont pas le temps, et cette personne peut-être elle sera encore en vie. Voilà, donc voilà. Quand on nous dit des choses, il faut que ça tienne la route parce que là.
Je suis désolé, je crois que vous allez devoir revenir la semaine prochaine parce que là, j'ai l'impression qu'on a vu filer la demi-heure sans avoir le temps de dire grand-chose et sans aborder tout un tas de questions qui sont hyper intéressantes, notamment ça, le SMIC, les charges, l'impôt, les taxes. On n'a même pas parlé du RIC. Vous reviendrez bientôt.
Des économies, on peut en faire en fait.
Ouais. Il faut taxer les bonnes personnes pour faire des économies.
Qui baissent déjà leur salaire là-bas en haut, qu'ils arrêtent d'avoir des privilèges comme ils ont. Et je pense que là, des économies, on va en faire.
8000 euros de prime de Noël.
Voilà. Il faut qu'on arrête, c'est une proposition intéressante.
Et je crois que là, ça irait mieux en France.
D'accord. Voilà. Bon, on retient. Lucien, je te laisse le mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est vraiment une vraie proposition. Hein. Revenez quand vous voulez.
Avec plaisir.
Le studio est ouvert. Merci à nos auditrices, à nos auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous écrire, contact@micro-rebelle.fr. N'hésitez pas à nous solliciter pour des opinions, des idées d'émissions, des reportages. Hein. On se déplace sans aucun souci. À la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Bye bye.